Parlons nature. Bienvenue dans l'émission. Ça donne pas le bourdon. Proposé et co-animé par Indre Nature, l'association Épinété,
le Centre permanent d'initiative pour l'environnement
et la Réserve naturelle nationale de Chérine. Dans l'émission Ça donne pas le bourdon, tous ensemble, parlons d'environnement.
Bonjour, je suis Cécile de la Réserve de Chérine. Pour continuer cette mini-série sur les jeunes qui viennent chaque année nous aider dans nos différentes missions, aujourd'hui nous allons rencontrer Axel et Moran, qui, vous allez l'entendre, sont tous les deux liés à des espèces extrêmement différentes. Bonjour Axel, est-ce que tu veux bien te présenter ?
Bonjour, je m'appelle Axel Coutan, je viens des Deux-Sèvres, j'ai réalisé un BTS GPN puis un service civique. Et je suis actuellement en licence professionnelle MINA à Besançon. Et je suis donc en apprentissage à la Réserve nationale de Chérine. Ma mission va principalement porter sur le suivi de la leucorhine à gros thorax, une espèce menacée en région centre et également en Brenne. Elle est présente sur la réserve, mais ses mœurs et sa biologie sont encore mal connues. C'est pour ça que nous montons donc ce projet en 2026.
Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette espèce particulièrement ?
Cette espèce est donc inscrite sur le plan régional d'action sur les odonates et elle fait partie des espèces les plus menacées de la région centre donc. Et la réserve de Chérine étant un des sites majeurs pour la présence de cette espèce, l'idée était de mettre en place un suivi pluriannuel qui vise à suivre sur le long terme cette espèce en lien avec les pressions anthropiques, les espèces exotiques envahissantes et le changement climatique.
Est-ce que tu peux nous dire quels outils tu utilises pour mener ta mission ?
Donc le premier outil que j'utilise, ce sont des petits enregistreurs de température qui enregistrent toutes les 15 minutes la température au sein des placettes que nous étudions. J'utilise ensuite une sonde multiparamètre qui me permet de faire des relevés de tous les paramètres physico-chimiques toutes les deux semaines. Et après, j'utilise essentiellement pour identifier les libellules mes jumelles et un fil à papillon.
Les outils numériques que tu utilises sont placés dans l'eau, j'imagine ?
Oui, c'est ça, exactement.
Alors maintenant, la grosse question pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous parler de la bestiole ?
Donc la leucorhine à gros thorax, c'est, comme je l'ai dit, une espèce très sensible en France qui fréquente essentiellement des milieux oligotrophes, la plupart du temps acides. En France, on la retrouve principalement dans les tourbières, mais en Brenne, elle fréquente généralement les queues d'étang bien végétalisées et les petites mares oligotrophes qui sont présentes un petit peu partout. Le caractère commun de toutes ces zones humides, c'est la présence d'une végétation aquatique et ce qu'on appelle les hélophytes, donc des plantes qui sont présentes à l'interface entre le milieu humide et terrestre. Cette espèce a vraiment besoin, elle effectue tout son stade larvaire dans la végétation aquatique, et comme son stade larvaire est long, d'environ 2 ans, il lui faut très peu de pression, de pression qu'elle soit anthropique ou de la part d'espèces exotiques envahissantes, et d'avoir toujours un faciès avec beaucoup de végétation.
Tu peux nous la décrire ?
Elle est assez petite, globalement assez sombre, et elle présente ce qu'on appelle une face blanche qui permet de la reconnaître d'assez loin. Et sur son thorax, elle présente un espèce de dégradé qui va du rouge au jaune. Elle est assez magnifique.
Assez magnifique. Ouais. Alors, toutes les libellules sont belles, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en Brenne, il y a beaucoup d'espèces différentes de libellules. et que dans la tête des gens, quand on pense à la libellule, on pense toujours à la libellule bleue. Quelle que soit l'espèce, il y a beaucoup de libellules bleues, mais en fait il y a toute une gamme de couleurs, et voilà, il y a certaines espèces qui sont vraiment très très rares, donc ce sont vraiment des animaux qu'il faut regarder de tout près. Est-ce que tu as déjà des résultats, est-ce que tu as déjà fait des observations intéressantes par rapport à cette espèce-là depuis que tu es arrivée?
Donc cette année était, comme on a eu un printemps assez précoce et du soleil assez tôt dans la saison, l'espèce comme on s'y attendait est sortie beaucoup plus tôt que ce qu'on avait l'habitude d'observer. Sur certains sites on a trouvé jusqu'à 20 individus, ce qui n'est pas exceptionnel au vu des observations qui ont été faites par ailleurs, mais ça reste une bonne année dans le sens où on a trouvé plusieurs nouvelles localités pour l'espèce.
Est-ce que vous faites aussi du comptage d'exuvies ?
On recherche les exuvies, mais cette année, les sites qu'on a suivis, principalement pour la recherche d'exuvies, avaient des profils particuliers, à savoir un ASEC. Et malgré de nombreuses recherches, on n'a pas encore trouvé d'exuvies. On croise les doigts pour le reste de la saison, mais ça semble au compromis.
Est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs ce que c'est qu'une exuvie ?
Eh bien, une exuvie, c'est ce qui reste de la larve de la libellule, c'est-à-dire c'est, entre guillemets, son squelette qu'elle laisse sur les tiges de végétation au moment de son émergence. C'est une matière un peu particulière, ce qui s'appelle la chitine, qui est la même texture que nos ongles, et on la trouve généralement sur les tiges verticales de joncs, d'iris, de phalaris et autres plantes aquatiques.
Eh bien, merci beaucoup Axel, je te dis bon courage pour la suite de tes recherches et une belle fin de journée.
Merci beaucoup, au revoir.
Bonjour Morand, peux-tu te présenter ?
Bonjour, je m'appelle Morand, j'ai 25 ans et je suis originaire des Sources de la Loire en Haute-Loire. J'ai fait un parcours scientifique, après un bac scientifique, j'ai effectué un DUT génie biologique à Digne-les-Bains dans les Alpes-de-Provence, avant 2 années de licence à Brest en biologie des organismes et des populations, puis 2 années de master en gestion de l'environnement à La Rochelle. J'ai terminé donc en 2025 mon master de La Rochelle. Et je suis actuellement à la réserve de Chérine pour 7 mois.
Est-ce que tu peux nous expliquer ta présence en ce moment ? Quelle est ta mission actuellement ?
Alors, j'ai été recruté en tant que service civique. Mon sujet principal, c'est la guiffette moustaque. C'est une espèce emblématique de la Brenne. Donc le sujet de la réserve, de mon service civique, c'est l'élaboration de radeaux. Pour aider à leur reproduction. Donc actuellement, il y a eu beaucoup de pertes de végétation pour cette espèce, et le fait de pouvoir peut-être faire des radeaux artificiels permettrait de booster un petit peu leur reproduction. Donc je réalise des radeaux en bambou, et à côté de ça, je vais aussi sur d'autres étangs essayer de lire les bagues des individus qui reviendraient de migration, avec une longue vue, une paire de jumelles, etc., ou un affût flottant.
Est-ce que c'est difficile de lire des bagues ?
Oui, on estime qu'il y a une vingtaine de pourcents, qu'on arrive à lire une vingtaine de pourcents de guiffettes par rapport à l'effectif total. En fait, donc c'est assez peu, puisque souvent elles sont trop éloignées de nous pour qu'on puisse les lire correctement. Et même à la longue vue, c'est difficile parce qu'il peut y avoir du vent qui fait bouger le focus, ou du bruit, ou d'autres dérangements. Et donc même à la longue vue, c'est compliqué. Et en fait, ce sont des bagues qui sont dorénavant des systèmes verts avec écrit en lettres blanches, avec composé d'une lettre et de 2 chiffres derrière, ou de 3 lettres.
Oui, parce que ces bagues, elles sont petites, en fait. Il faut vraiment une super grosse longue vue pour bien les lire.
Oui, c'est ça. Les guiffettes, c'est des petits oiseaux. Déjà, c'est de la même famille que les sternes, mais en plus petit. Donc les tarses, les pattes, sont vraiment très petits. Et ça fait La bague en elle-même, elle fait quelques millimètres et elle a un poids très très léger, donc il faut effectivement avoir une bonne vue, et même avec une longue vue, c'est pas simple.
Mais on ne peut pas lire les bagues quand elles sont en vol, par exemple?
Non, oui, justement, on va poser des piquets dans les étangs où on sait qu'elles ont l'habitude de venir se reproduire. Et ça nous permet, ça leur permet pour elles de se reposer et de digérer les proies qu'elles auront consommées. Et pour nous, d'avoir un accès plus facile visuellement à la bague.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de la guifette moustak, sa vie, son œuvre?
Donc c'est un oiseau migrateur qui a une très grande longévité, puisqu'on estime qu'il peut vivre au-delà de 15 ans. Mais pour autant, sa production de jeunes à l'envol est très, très limitée. En général, ils arrivent à faire que 2 poussins et il y a beaucoup de prédation, notamment par des rapaces ou par d'autres animaux. Et donc c'est une, en Brenne, elle est présente en reproduction, donc en général de fin avril à juillet. Et sinon, elle va hiverner dans l'Afrique saharienne. Et il y a beaucoup de guifettes notamment qui vont nicher hiverner dans le delta du Niger. Donc ça fait plus de 3000 km en vol, mais elles arrivent à faire ça quasiment d'une traite, malgré leur petit poids.
C'est quand même incroyable hein, quand on voit un oiseau qui est de... Pour nos auditeurs, c'est un peu plus petit qu'une tourterelle, quoi. C'est un oiseau qui est tout en finesse et qui fait quand même, comme vient de le dire Laurent, 3000 km quasiment d'une seule traite. Hein, si nous, on devait le faire à pied, je ne sais pas trop comment ça pourrait se passer. Est-ce que tu as déjà observé cette année des oiseaux bagués? Et si oui, est-ce que tu peux me détailler un peu ce que tu as observé en fait?
Oui, j'ai eu la chance d'en observer plusieurs à l'étang Puré. Donc c'est un étang qui fait partie de la réserve de Chérine. Donc là, j'étais avec la chargée de mission scientifique qui est Laura Beau, qui est dans la réserve depuis fort longtemps. Mais nous avons eu la chance de voir des guifettes posées sur des piquets et on a vu grâce à des petits ourlets sur les pattes qu'elles pouvaient posséder des vagues. Et en sortant la longue vue, on a pu observer quatre bagues différentes. Donc des individus différents. Et donc au total, ils ont réussi à baguer depuis 2006 plus de 3000 individus. Donc c'est normal qu'on en retrouve en grand nombre. Comme elles vivent en colonie sur les étangs.
Est-ce qu'on a une petite idée de... Parce que le fait de marquer les oiseaux, ça permet de les individualiser.
Oui.
Est-ce qu'on en sait un peu plus du coup sur les oiseaux que vous avez observés?
Sur les individus que j'ai pu voir, la plus ancienne, elle datait de... Sa date de bagage avait été en 2010, donc elle avait plus de 16 ans. Mais pour les autres, c'était autour des années 2020. Donc c'était beaucoup plus récent. Mais on sait que certaines guifettes arrivent à survivre assez longtemps. Et je crois que le record actuellement c'est 18 ans ou quelque chose comme ça. Mmh. Et donc avant c'était des systèmes où il y avait plusieurs types de couleurs. Il y avait jaune, noir, rouge. Et maintenant on utilise surtout du vert donc marqué en blanc. Sauf quand on rajoute en plus une balise GPS qui fait moins de 3% du poids de la guifette. Et donc là, on rajoute une bague rouge sur les tarses.
Des balises GPS, c'est-à-dire qu'on peut quasiment suivre les oiseaux en temps réel pendant leur déplacement?
Tout à fait. Il y a un suivi qui est effectué par le rabot sur certains individus. Donc en 2023, 2024, 2025, ils avaient réussi à baliser une dizaine, une quinzaine d'individus. Et en les capturant spécifiquement avec un filet sur des suivis scientifiques. Donc là, à ce moment-là, ils en profitent pour faire une mesure des tarses, du poids, et déterminer l'âge de l'individu. Et déterminer aussi le sexe entre mâle et femelle. Il peut avoir un dimorphisme dans le bec. Donc on peut déterminer des fois le sexe grâce à ça. Et donc à ce moment-là, on peut poser une balise GPS. La précision, je ne saurais pas exactement, mais je pense que ça doit être moins de 1 mètre en vol.
Très précis quand même, quoi.
Oui. Mmh. Et donc on a des données assez régulièrement. En général, je crois que c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est comme pour d'autres espèces, mais ça doit être peut-être une donnée toutes les 2 heures. Ou toutes les... Enfin, on a au moins une donnée tous les jours. Et donc, on a pu voir sur certains individus qu'elles faisaient vraiment les allers-retours entre l'Afrique et la Brenne. Et qu'en passant... en fait, tous les schémas de retour à la Brenne sont complètement différents d'un individu à l'autre, parce qu'on a des individus qui passent par l'Atlantique, d'autres qui passent par le détroit Gibraltar, d'autres qui passent totalement par la Méditerranée. Donc ils arrivent à traverser 2 fois la mer. Mais ouais, c'est totalement différent d'un individu à l'autre.
C'est vraiment passionnant de savoir que les nouvelles technologies nous aident vraiment à comprendre mieux certaines espèces qui sont pourtant suivies depuis de nombreuses années, et on fait vraiment des trouvailles régulièrement grâce à ça, en fait. Hein, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les guifettes moussaques, elles sont protégées, donc là ça induit une manipulation puisqu'on doit capturer l'oiseau pour le baguer, ça nécessite de notre part des autorisations, etc.
Et le moins de temps de manipulation possible. Dès qu'on les a manipulés pour ce qu'on a besoin, on les relâche et on essaye, en les manipulant, d'être le moins invasif possible pour l'espèce. Quoi.
Oui, parce que je pense que ça doit les stresser pas mal. Ok, ben c'est super. Eh ben, je te remercie, Morand. Et bon courage pour la suite, et puis je te souhaite une belle fin de journée.
Merci, bonne journée, à bientôt.
Vous l'avez entendu, les jeunes que nous accueillons à Chérine ont des cursus scolaires et universitaires variés et riches. Sachant que l'on ne peut bien protéger que ce que l'on connaît bien, leurs missions compléteront un socle de connaissances indispensables pour mieux appréhender les enjeux majeurs d'un futur alarmant. J'espère que ces petites séquences vous auront intéressé. Je vous dis à bientôt sur Radio Dynamo.
Parlons nature. Bienvenue dans l'émission. Ça donne pas le bourdon. Proposé et co-animé par Indre Nature, l'association Épinété,
le Centre permanent d'initiative pour l'environnement
et la Réserve naturelle nationale de Chérine. Dans l'émission Ça donne pas le bourdon, tous ensemble, parlons d'environnement.